Bienvenue sur le podcast de Douceur financière. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Amélie Riedo. Comment ça va?
Merci de l'invitation. Ça va super bien. Je suis vraiment contente d'être ici.
Merci. J'ai hâte que les auditeurs apprennent à te connaître parce que je crois que ça va être une très belle découverte. Donc, j'ai vraiment hâte qu'on rentre dans le vif du sujet qui est en fait tout ton parcours, puis on va terminer avec la douceur financière comme à l'habitude. Mais avant juste de commencer, qu'est-ce que tu fais présentement là, en ce moment, okay. Toi?
Là, je reviens de vacances. J'ai été à Charlevoix. Présentement, je suis coach pour entrepreneurs en ligne, donc je les aide à démarrer et scaler leur entreprise en ligne avec des systèmes d'automation et des systèmes au niveau de tout ce qui est le marketing et la vente, puis à l'interne. Donc, je leur amène une structure. On parle de tout ce qui est technicalité de la chose. Donc, j'aime vraiment ça. Donc, j'ai des programmes pour les femmes entrepreneurs selon leur niveau. Et puis, présentement, à l'heure où on se parle, je suis en train de planifier un lancement et puis je suis en train d'enregistrer un podcast.
Merci! Ah, puis là, j'ai vraiment hâte de connaître ton histoire, malgré le fait que j'ai écouté tes podcasts, mais de vraiment rentrer dans ton histoire à toi de la jeune Amélie, qui elle était, puis tout ton parcours jusqu'à maintenant. Donc, qui étais-tu quand tu étais enfant? On va partir de là.
Qui j'étais quand j'étais enfant? J'étais une petite fille hyper extravertie. Une artiste, comme on peut dire. J'étais passionnée de tout ce qui était chant, musique. J'ai eu des cours de chant à partir de l'âge de 7 ans. Je faisais 2-3 spectacles par année. Puis, j'ai chanté sur une scène avec un maillot de bain. Itty bitty teeny weeny, tout petit petit bikini, qu'elle mettait pour la première fois. Et j'ai des vidéos de ça, alors je suis vraiment contente de les avoir. Wow. J'étais, tu sais, la petite star, là, la petite star qui aime ça, qui a pas peur de rien et tout. Puis j'étais très extravertie, j'ai aimé être présidente de classe depuis comme la première année. J'avais vraiment tout le temps envie de partir des projets. J'avais envie d'être celle qui anime des classes, celle qui fait en sorte que il y a des programmes de récompense pour les élèves qui sont qui ont des bonnes conduites. Fait que c'est de là que c'est parti le leadership que j'ai, puis l'envie aussi d'entreprendre. Je pense que ça part de très très jeune, mais très créative, là, du style je le fais parce que j'aime ça, pas parce qu'il y a une compétition derrière ça. Donc, ouais. Fait que le chant, puis j'ai eu un band, donc très artistique. Puis après ça, ben je suis allée un petit peu plus dans la danse, plus tard, dans mes années au secondaire. Puis c'est vraiment quelque chose qui m'a passionnée, la danse, longtemps. Puis c'est ce qui m'a amenée à me connaître beaucoup comme personne, comme femme. Tu sais, quand t'es jeune, tu te connais pas nécessairement, tu sais, tu veux juste vivre ta vie, puis là, après ça, l'âge adulte arrive bientôt, puis là, t'essaies de te découvrir de qui c'est quoi ton identité et tout. La danse m'a vraiment aidée à solidifier mon identité, à exprimer mes émotions. Je suis extravertie, mais très, très introvertie pour tout ce qui est mes émotions, comment je me sens, ma vulnérabilité. Ça, c'est des choses que... Ça, c'est très, très introverti. Fait que c'est comme l'extrême dans les deux côtés. Fait que ça m'a permis d'exprimer mes émotions. Puis je vivais beaucoup d'anxiété quand j'étais jeune, dû à mes parents. Parce que mes parents, ils étaient divorcés, puis ils n'avaient pas une super bonne relation. Puis moi, je me mettais pas mal tout le temps entre les deux. Fait que c'était pas facile, mais je l'intériorisais énormément. Fait que c'est ça. Fait que là, je me suis en allée dans la danse, puis ça m'a permis de l'évacuer, ça m'a permis de le vivre, en fait, puis de l'exprimer. Fait que ça m'a soulagé beaucoup de mon anxiété là, que je vivais, puis des périodes un petit peu plus difficiles.
Wow! C'est tellement beau, le sport, pour ça.
Ouais.
Surtout à l'adolescence, là, ça aide vraiment. Puis la danse, c'est tellement artistique. Ça venait vraiment tout rassembler, en fait, tes passions. Puis au niveau de l'école, comment t'allais au secondaire? Ça allait-tu bien au niveau académique ou c'est...
Au primaire, j'étais vraiment une élève modèle. Je dirais que j'ai toujours eu des A, des B, présentation orale A+. Tu sais, j'étais super bonne à l'école, jamais eu de problème. Au secondaire, première année, j'étais dans une école, dans un collège de filles seulement. C'était spécial. Quand tu forges une identité à l'adolescence sans présence masculine, c'est spécial.
Vraiment, hein?
Wow. Vraiment.
Okay.
Puis la première année, j'ai super bien performé, ça allait bien, mais j'ai commencé à ressentir que je fitais pas, in, que j'étais pas dans le moule des filles que je voyais dans mon école, que j'étais un peu nerd, que j'étais un peu trop bolée, que j'étais un peu trop entreprenante, tu sais, j'étais présidente de mon année au complet, tu sais, j'avais pas rapport. Puis c'est ça, fait que ça a commencé à me trigger un petit peu, puis me faire comme me questionner sur moi, puis qui j'étais et tout. Et puis à ce moment-là, j'avais pas complètement résolu le conflit le parent là, dans ma tête. Là, tu étais encore un peu jeune en secondaire 1 pour comprendre là, que les parents, c'est pas des super-héros et tout. Puis ce conflit-là, que mes parents s'étaient séparés, je l'avais pas encore super bien process, comme on dit. Là. Alors, cette période-là, elle a été vraiment complexe parce que je savais pas qui j'étais, je savais pas comment être qui j'étais, puis en plus, j'avais pas résolu le conflit de mes parents, fait que je savais pas qui j'étais par rapport à mes parents, ni par rapport à rien. Là. J'avais aucun point de repère sur qui est Amélie.
Comment on sait?
Fait que, ouais.
Puis est-ce que à ce moment-là, t'étais beaucoup dans la danse, ça t'a permis au moins de te grounder dans quelque chose, ou tu te sentais complètement dépassée?
Ben, en fait, je me sentais dépassée à l'école parce que je fitais pas dans, mettons, j'avais des bonnes notes, j'étais bonne, fait que tu sais, c'était pas un problème. L'académie, ça a jamais été un problème, c'était vraiment l'intégration, tu sais, de par rapport à ça, surtout à cet âge-là, là, que là, il y a des gangs, des cliques et tout. Mais comment ça m'a aidé, moi, c'est que la danse est apparue juste un petit peu plus tard. J'ai changé d'école parce que j'avais tellement... À ma deuxième année à cette école-là, je me suis comme rebellée. Je cherchais mon identité. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis comme rebellée. J'écoutais pas les profs. J'écoutais pas mes parents. Je les envoyais chier. Je me cherchais. J'étais juste en crise, d'après moi, d'identité. Oui.
C'est simple de loin, mais quand t'es dedans, c'est très désagréable. Non,
ben, tu sais, je ne savais pas ce qui se passait à ce moment-là. Là, j'essayais juste de survivre, I guess. Là. C'est ça. Fait que je pense que ce qui est arrivé, c'est que je me suis rebellée, puis je me suis fait mettre dehors de l'école. À ce point-là, j'ai rencontré le directeur 2 fois. J'avais eu des retenues internes, externes. Et puis là, c'était comme soit que tu te replaces là, tu veux revenir l'année prochaine ou tu changes d'école. Fait que j'ai décidé de changer d'école parce que c'était quelque chose qui était comme pas pour moi, clairement. Puis j'ai eu la chance d'avoir une amie qui changeait d'école en même temps que moi. Une fille que je connaissais. Fait que ça m'a permis de faire comme le move. Et puis je suis allée dans une école juste de gars.
Mais non!
Ouais! Il y avait juste des gars presque. On était comme 20 filles dans notre année au complet. Fait que j'étais allée dans le contraire. ouais. Puis c'est là que j'ai commencé à faire de la danse. Puis j'ai commencé à retrouver un équilibre un petit peu après avoir suivi de la thérapie, justement, parce que l'anxiété avait repris un petit peu plus de place. J'avais eu vraiment une période de creuse à ce moment-là où est-ce qu'en plus d'avoir vécu cette difficulté-là sociale, là, je vivais un changement en plus drastique. Fait que là, l'anxiété, elle a explosé, puis période vraiment creuse, dépression à l'âge de 14 ans, c'était pas facile. Fait que je m'en suis sortie avec la thérapie, puis quelques mois plus tard, j'ai commencé la danse. Fait que ça m'a vraiment aidée, là.
Oh wow! Fait que t'as eu un début de secondaire assez intense, qui s'est très bien replacé par la suite.
Oui.
Puis après, est-ce que ta passion de la danse t'est dit « moi, je veux être dans ce milieu-là artistique toute ma vie », qu'est-ce qui t'est arrivé? Parce qu'en secondaire 5, on se fait tout le temps poser la question.
Ouais.
Que veux-tu faire dans la vie?
Tu veux être danseuse et tout.
Ouais.
Mais c'est une très bonne question. Puis j'étais tellement passionnée que je me disais que j'allais faire ça. dans la vie, mais je savais pas comment. Tu sais, je savais pas parce que la danse, c'est un parcours qui est comme quand même plus artistique que sportif, fait qu'il n'y a pas de lignée directe comme tu vas à l'université, tu vas faire ça, tu vas être pris dans telle équipe. Tu sais, c'est pas comme le même parcours linéaire d'un sportif. C'est comme ça peut prendre plein de directions. Là. Oui. Fait que je savais pas comment, mais je voulais vraiment. Puis mon rêve, c'était de danser professionnellement. Tu sais, je me rappelle au secondaire, là, je voulais danser professionnellement parce que c'était vraiment une passion. C'est ce qui m'avait sorti, tu sais, un peu de ma coquille et tout. Fait que ça me rend vraiment émotive parce que là, je vais être dans mes SPM. Puis j'en ai parlé à mon chum hier. Oh my God! Pourquoi je pleure?
Okay. C'est parfait. Laisse l'émotion. C'est tellement God, beau. Oui.
Je parlais de ça à mon chum hier parce que je disais, genre, j'ai mis ça de côté. Oui, mon Colin, je sais pas pourquoi je pleure.
Parce que ça vient chercher des beaux moments puis des moments difficiles, tu sais. Oui.
Vraiment.
Oh, c'est beau.
Puis, je pense que c'est ça, ça m'a vraiment permis de m'exprimer. Puis, je pense que ce qui me manque vraiment, c'est ça. C'est cet art-là, puis cette... tu sais, c'est vraiment quelque chose qui te permet de t'exprimer sans parler, sans nécessairement le dire ou quoi que ce soit. Puis c'est vraiment comme... c'est vraiment une passion. Et puis dans les dernières années, ben j'ai dû arrêter parce que j'avais été pris dans une école de danse contemporaine professionnelle. J'avais commencé mon parcours, puis j'ai dû arrêter parce que, ben en fait, c'est vraiment un mode de vie qui est juste extrêmement difficile, là. C'est vraiment... pas juste pour l'entraînement, mais tu sais, tout ce qui vient avec les sacrifices que tu dois faire. Tu dois être loin de ta famille, tu dois répéter la fin de semaine, tu dois faire des tournées. Mais c'est aussi financièrement, c'est un salaire vraiment crève-faim là, d'être artiste et d'être danseuse. Alors, c'était pas nécessairement ça que je voulais, mais j'ai dû mettre ça de côté justement par rapport à ça. Je vais prendre une petite gorgée, là.
Ah oui! Mais je trouve ça tellement beau parce que la danse, pour moi, c'est un milieu tellement serein pour s'exprimer, surtout le contemporain.
Oui.
Puis c'est un endroit où tu vas jamais, jamais le mental va venir bloquer le cœur ou ce que ton corps ressent. C'est tellement beau, là. Moi, j'ai une famille de danseurs, là. J'étais la seule qui faisait de la danse synchro. Et je faisais comme la même chose, mais dans l'eau, mais vraiment plus technique. Puis, mais c'est ça, j'ai beaucoup de cousines qui ont fait les grands ballets canadiens et qui sont danseuses professionnelles en contemporain. Puis toute l'émotion que tu as vécue, j'étais comme, oh, c'est tellement ça que toutes les danseurs vivent.
Ouais, vraiment.
C'est difficile.
C'est vraiment difficile parce que c'est ça, c'est pas comme, mettons, quand t'es... je veux pas comparer parce que c'est totalement différent, mais c'est vraiment un art, en plus d'être un sport. Puis c'est des conditions qui sont... tu sais, il faut vraiment que tu sois passionné pour faire ça. C'est pas comme... tu dis, genre, t'es joueur de hockey, puis c'est sûr que t'as un salaire et plus garanti. Tu sais, c'est quelque chose qu'il faut que tu saches que ça va être difficile et tout. Fait que moi, j'admire vraiment les danseurs pour ça, puis j'admire vraiment ce sport-là parce que tu le fais par passion, là, c'est vraiment quelque chose. Puis je l'ai vécu, puis je te dirais que mon objectif, ça serait, de reconnecter avec ça. Là, il y a le COVID, là, mais je suis à Montréal, puis il y a des classes à l'École de danse contemporaine de Montréal qui se redonnent, probablement en septembre, puis j'entrevois la possibilité de recommencer la danse, mais plus sous forme de passion, puis loisir, puis peut-être troupe de compétition, mais en groupe. C'est quelque chose qui est plus, mettons, en accompagnement avec ce que je fais que mon salaire. Là. Quelque chose qui est... maintenant, j'ai la liberté de le faire, donc je vais pouvoir le faire. Fait que c'est un peu pour ça que je me suis redirigée aussi, mais la danse m'a tellement apporté puis m'apporte encore tellement beaucoup. Tu sais, c'est même pas tant... tu sais, c'est pas d'aller dans un studio puis de faire une classe, c'est juste d'être dans le salon puis de danser ou juste toute la sphère de la connexion avec ton corps aussi que t'as. C'est juste... c'est ça.
C'est magique. Mais quand tu as fait un sport artistique,
ouais,
tu te rends compte de ce lâcher-prise-là que tu as avec ta tête.
Mm-hmm.
Et c'est tellement beau. C'est... mm-hmm. Puis même en méditation, je pense que j'ai jamais réussi à atteindre cette l'espèce de lâcher prise, là. Je sais pas pour toi, là, mais c'est, quand t'es vraiment dans la musique puis dans ton corps, c'est tellement beau, là.
Ouais. C'est exactement ça, parce que oui, la méditation, ça l'amène, cette certaine tranquillité-là, mais t'as pas l'expression du corps qui vient avec ça. T'as pas le... tu le ressens, c'est comme tu le ressens pas de la même façon, mais je pense qu'au-delà de ça, ce qui est important de comprendre, c'est que la danse, c'est vraiment un sport qui est ressenti. C'est un art qui est ressenti. Fait que même si tu bouges pas, juste le fait ou juste le fait d'interpréter, juste entendre la musique, comme tu dis, de respirer dans la musique, c'est ça, c'est juste ça, c'est un art. Fait que c'est pas compliqué. Là, même si t'es pas professionnel et que t'as le goût d'essayer la danse, c'est pas sorcier. Là, pour ceux qui écoutent et qui disent « Oh mon Dieu, ça me semble pas si complexe que ça, la danse », quand tu as des bons profs qui t'apprennent à justement apprécier ça, c'est vraiment le fun.
Oui, vraiment. Puis ça peut être simple, là. Puis on n'a pas besoin d'être bon, là.
Non.
Personne qui te regarde dans ton salon.
Non, exact.
Ça peut être ton petit moment tout seul. Oh, wow! Et tu as commencé la danse, tu as commencé tout ça, puis à un moment donné, tu as simplement dû pas abandonner, parce que c'est un mot que j'aime pas, mais que tu as arrêté au niveau de ta carrière en contemporain. Et à ce moment-là, comment tu te sentais? Tu devais être complètement désemparée.
j'étais assez désemparée, mais pour être vraiment franche, c'était toute moi qui payais à ce moment-là, parce que j'avais décidé, j'avais dit à mes parents que c'était mon rêve. J'avais dit, c'est moi qui vais m'arranger. Donc, à 19 ans, j'étais à l'université. J'avais fait une année à l'université en intervention sportive qui était en danse aussi, mais plus dans le volet coaching. Puis j'ai dit juste, j'arrête. Je vais suivre mon rêve. Je vais le regretter si je ne le fais pas. Mais c'est tout moi qui payais. Fait que je payais mon appartement, mon épicerie, mon école, en plus d'être à temps plein en entraînement. C'est-à-dire que la fin de semaine, je travaillais 3-4 jours semaine dans un restaurant, plus mes entraînements. Fait que c'était vraiment un mode de vie hyper, hyper, hyper demandant. Puis au niveau financier, tu sais, je veux dire, il aurait fallu que je travaille à temps plein pour pouvoir me permettre les études, parce que ça coûte cher juste d'avoir, juste de payer pour l'école. Mm-hmm. Je pense que ça me coûtait, tu sais, quelque chose comme 2 à 3 000 par mois, plus tout ce que j'avais à payer en plus de ça. Puis ça, c'est sans compter tout ce que j'avais besoin, comme les classes à part, les workshops l'été, les cours de ballet. Tu sais, c'est toutes des choses en plus qu'il faut que tu prennes.
La physio.
La physio. la physio, l'acupuncteur, oui. Parce que là, t'as une heure de poignet. Sérieux, c'est juste un mode de vie. Il faut que tu manges santé, il faut que tu manges beaucoup. Oui.
T'es tout le temps blessé.
T'es tout le temps mal en quelque part. Fait que là, il faut tout le temps que tu... Tu sais, je veux dire... Puis là, tu vas travailler. Fait que là, tu repiles sur tes bobos parce qu'il faut que tu travailles, il faut que tu payes tes études et tout. Fait que c'était vraiment compliqué, là. Puis c'était... J'ai vraiment aimé vivre ça. Mais je me suis dit, plus tard, quand que je vais être libre financièrement de pouvoir le faire, je vais le faire. Puis je vais le faire avec des conditions qui sont meilleures. Puis je vais le faire avec passion quand même, mais pas avec la pression de comme performer, puis de c'était pas les conditions que je voulais, moi, que je pense que je voulais vivre avec ça.
Oui. Puis aussi de t'amuser plutôt qu'être dans l'anxiété financière, puis l'anxiété de performance, dans toutes ces sphères d'anxiété-là que pas mal tous les sportifs de haut niveau vivent.
Oui, exactement. Exactement, c'est ça, c'est exactement ça. Puis, je lève mon chapeau, parce que sérieusement, si t'as pas d'aide, mettons, de tes parents, puis que tu le fais toute seule, c'est vraiment beaucoup. Là, je l'ai fait pendant comme 6 à 8 mois. Et puis, pour ceux qui font ça là, pendant comme 3 ans, parce que généralement, la formation en danse dure 3 ans, bien, c'est sûr que tu ressors de là probablement endetté avec un corps qui est surtaxé et aussi beaucoup de choses à faire pour la suite, parce que tu n'as pas de travail non plus là, garanti après ça. Là.
Non. Puis tu n'as surtout pas un gros salaire non plus.
Non.
De garantie.
On parle de douceur financière, là. C'est loin d'être doux financièrement.
Non, c'est épouvantable. Il y a des on pourrait dire des sphères de travail qui sont vraiment épouvantables au niveau financier. Puis des fois, rationnellement, je me dis, mais pourquoi on fait vivre ça aux gens quand on aime tellement aller voir un spectacle de danse ou aller voir de l'art ou de la musique, peu importe. Mm-hmm. Ouais. Non, il y a quelque chose. Il y a un paradigme financier à aller changer.
Ah oh, oui, totalement, parfaitement.
Puis là, tu t'es retrouvée à mettre sur la glace ta carrière de danseuse professionnelle. Mm-hmm. Tu t'es retrouvée devant rien, tu avais arrêté l'université.
Ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, en fait, là, vu que j'étais perdue avec tout ça, ben, en fait, puis ça, je l'ai déjà raconté sur mes médias sociaux, mais je sortais aussi d'une relation toxique qui était une relation qui m'a fait beaucoup apprendre sur moi, mais j'ai décidé de retourner à l'université parce que je savais pas quoi faire. Parce que je me disais que, bon, tant qu'avoir fait un an, on va faire deux, puis on va faire trois. Mm-hmm. Parce que mes parents voulaient, parce que j'avais pas réussi, parce que si, parce que ça, bon. Fait qu'après avoir réfléchi, je me suis dit, je vais retourner à l'université, je vais finir mon bac, puis je vais devenir comme prof de danse ou je vais avoir comme mon studio où je vais pouvoir quand même rester là-dedans. Fait que j'ai fait ça, puis je dirais que la première année, c'était bien, mais je m'étais partie une petite passion sur le côté qui était ma compagnie d'entraînement personnel. Je me disais, je vais déjà commencer à bâtir ma clientèle, je vais déjà commencer à être dans le milieu. Et puis, j'ai suivi ma formation d'entraîneur, j'ai commencé à avoir des clientes et tout. Fait que je faisais ça à temps partiel avec l'université. Et puis, après un an à l'université, j'ai eu quand même un bon succès dans ma clientèle en entraînement. Fait que j'ai fait, sais-tu quoi? Je vais juste me lancer là-dedans. J'ai juste décidé, parce que j'ai réalisé ça, j'étais dans un café avec mon copain de ce moment-là. Puis je disais, sérieux, ça me tente pas de revenir l'année prochaine, ça me tente pas de le compléter. Je sens que ça m'apporte pas là où ce que je veux aller. C'est pas quelque chose qui est fait pour moi. Puis je veux pas être prof de danse toute ma vie. C'est pas ça mon objectif. Je sais que c'est bon d'analyser les performances. Moi, ce que j'aimais le plus de mon bac, c'était la préparation mentale qui était pour les athlètes. C'était ça qui me passionnait le plus. Fait que j'ai dit, j'ai fini mes cours de préparation mentale. J'ai comme plus le goût d'aller plus loin dans la planification des entraînements. Puis, tu sais, c'était quelque chose que j'étais pas connectée à ça. Fait que j'ai eu une discussion. Puis, j'ai dit, ouais, là, c'est parce que mes parents, qu'est-ce qu'ils vont dire? Puis là, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ça fait deux fois que je lâche, nanana. J'ai dit, je pourrais leur faire à croire, dans le fond, que je continue cette année, mais je reste à Québec, puis je continue ma compagnie. Là, je me suis dit, ah oui, je vais juste leur dire que je continue ma compagnie, puis ça va finir là, puis je vais prendre ma décision. Fait que finalement, je suis revenue cet été-là, puis j'ai pris la décision de rester chez mes parents pendant une période indéterminée, mais moi, je m'étais donné un an pour bâtir ma compagnie, lancer ça en ligne, puis être là-dedans à temps plein pour vraiment gagner ma vie avec ça. Donc, c'est comme ça que j'ai lancé mon entreprise en ligne pour la première fois, puis c'est comme ça que je suis partie de l'université finalement, à ne pas avoir complété mon bac.
C'est parfait! Mais si tu savais le nombre de gens qui finissent pas une maîtrise ou qui finissent pas un doctorat ou un bac, c'est normal, puis t'es mieux de t'en rendre compte puis de te dire, mais tant qu'à perdre mon temps et mon argent, je vais aller utiliser ces ressources-là qui est le temps et l'argent, c'est quand même deux ressources importantes ailleurs. Donc c'est super beau que t'aies vraiment connecté avec ton intuition puis t'aies pas eu peur.
Souvent,
les gens ont peur.
Bien, pour ceux qui écoutent en ce moment, je sais qu'il y en a plus qu'une ou plus qu'un qui ont peur de faire ce move-là. Je dirais que c'est les premières semaines d'accepter ce choix-là parce que c'est comme si tu dis bye à une partie de ton identité. Tu sais, c'est comme tu t'étais tellement dit que tu allais avoir un bac, tu t'étais tellement dit que tu allais le finir pour toi ou pour les autres, que c'est faut que tu dises non à qu'est-ce que tu pourrais perdre, tu sais. Mm-hmm. La fameuse peur de perdre quelque chose, là, de genre, mais oui, mais si je le finis pas, peut-être que je vais perdre des opportunités, peut-être que je vais perdre une possibilité, peut-être que... Mais dans le fond, ce que tu veux, ça n'a rien à voir avec ce que tu peux avoir, là. Ce que tu veux vraiment, c'est vraiment de faire ce que tu aimes, d'avoir ta business, de faire ce que tu veux. Mais ce que tu peux faire, oui, tu peux le finir, là. Je sais que j'ai jamais eu de problème académique, j'aurais été capable de finir mon bac, là. Mais c'était pas ça, en fait.
Oh wow! Puis là, ça fait combien de temps que tu as arrêté ton bac puis que tu as lancé ton projet entrepreneurial?
Ça fait 3 ans maintenant. Oh. Oui, ça fait 3 ans.
Es-tu contente?
Oui, je regrette. À aucun jour de ma vie, je regrette d'avoir lâché mon bac. Je suis vraiment contente de l'avoir fait. Et puis, j'aurais aimé ça le faire une année plus tôt. L'année
genre ce qu'on se dit!
L'année que je suis retournée après mes études de danse, je l'ai faite parce que je savais pas quoi faire. Mais j'aurais dû ne pas savoir quoi faire puis chercher qu'est-ce que je voulais faire plutôt que... Ben, en tout cas...
T'asseoir avec ta conscience.
Il y a rien qui arrive pour rien. Je regrette pas de l'avoir faite, mais... Non. Je regrette pas d'être partie de mon bac, aucunement. Ça m'a tellement apporté le chemin entrepreneurial que je me dis, c'est la meilleure école. C'est la meilleure école.
Ah oui, tellement.
Et pour moi, en tout cas. Parce que je veux pas parler pour quelqu'un d'autre, parce qu'on est tous différents. Mais pour qui je suis comme personne, c'était la meilleure école.
Oui, puis on apprend tous les jours. Mm-hmm. Même si c'est pas dans un curriculum de cours, mm-hmm. on apprend à tous les jours. Puis mm-hmm. comment tu décrirais tes trois dernières années comme entrepreneur?
Ton parcours?
Oui, parce que tu as commencé plus en sport.
Oui, en entraînement.
Tu t'es complètement redirigée vers la préparation mentale aussi.
Mm-hmm.
Mais pour
je faisais plein de choses, OK? Parce que, tu sais, au début, quand tu te lances, tu sais, c'est pas des gros salaires, c'est pas non plus quelque chose que tu peux... J'avais pas assez de clientes pour faire ça à temps plein, là. Je pouvais mm-hmm. pas me permettre ça. Puis, en fait, j'essayais, mais ça prend un petit peu de temps, là, avant de bâtir une clientèle et tout. Fait que j'ai été serveuse. J'ai pris les travails qui s'offraient à moi et puis j'ai fait ça sur le site, comme on dit. Puis je continuais de bâtir mon audience, mon podcast et tout. Fait que j'aimais vraiment ça. C'était quelque chose qui me passionnait parce que là, je voyais que ça s'en allait en quelque part. Là, t'sais, je me disais, oui, je suis serveuse, mais c'est temporaire. T'sais, c'est pas là pour rester. Et puis, j'ai eu aussi un travail de préparatrice mentale avec des sportifs parce que là, je pouvais aussi avoir des contrats vu que j'avais comme de l'expérience puis j'avais les connaissances puis la formation pour faire de la préparation mentale sportive. Fait que j'ai eu beaucoup de contrats avec des athlètes, avec des équipes sportives, dans des milieux sportifs, dans des milieux scolaires puis avec des one-on-one. Fait que ça a été une grosse partie aussi de ce que j'ai fait quand j'ai commencé. Jusqu'à tout récemment, d'ailleurs, parce que jusqu'à cet hiver, j'avais des athlètes. Puis là, avec le COVID, c'est parti. Oui. Et puis, moi, l'entreprise, elle a eu tellement pris de l'expansion que j'ai juste plus le temps d'en prendre. Fait que c'est ça.
Ah, oh, c'est super! Puis quand est-ce que tu as vraiment changé entre... Tu t'es dit... Je vais mieux définir ce que je veux, puis je vais vraiment m'en aller vers le développement des femmes, parce que c'est vraiment ça ta clientèle cible. Quand est-ce que tu as fait vraiment le switch entre la préparation sportive, ensuite ça a été un hybride?
Comment que j'ai fait le switch? Moi, ce qui m'a toujours vraiment passionnée, c'est que, comme je t'ai dit, j'ai quand même manqué de confiance quand j'étais jeune. Je me cherchais beaucoup. Je l'ai vécu très, très jeune. Moi, je l'ai vécu à 14 ans. Fait que je sais c'est quoi, mais je l'ai vécu version accélérée plus jeune. Sauf que ce que je me rends compte, c'est qu'il y a des femmes, beaucoup, qui le vivent, mais plus tard. Ils vivent dans la vingtaine, quand ils partent de chez leurs parents ou quand ils sont rendus à l'étape de peut-être avoir une carrière qui est vraiment à leur image. Puis toute cette transformation-là qu'elles vivent, moi, je l'ai vécu, mais quand j'étais vraiment jeune. Donc, moi, mon objectif, c'est de les aider à gagner confiance en elles. Puis j'ai vécu une relation, comme je te dis, toxique qui m'a vraiment changée puis qui m'a vraiment apporté à gagner confiance en moi puis à savoir c'est quoi ma valeur, à connaître vraiment c'est quoi mes standards dans n'importe quoi que je fais, que je veux jamais, par rapport à la danse aussi, tu sais, je veux pas avoir ce mode de vie-là, je sais qu'est-ce que je vaux, je sais exactement qu'est-ce que je veux. Puis c'est le genre de choses que je pense qui manque beaucoup dans les femmes que je rencontre ou les femmes avec qui je travaille. Puis, j'avais vraiment envie de faire une différence par rapport à ça. Pas juste pour les femmes, mais c'est parce que ça me nourrit, moi, personnellement, de faire ça. Fait que plus que ça allait, plus que je me disais, Bon, il y a plein de femmes qui ont ce besoin-là. J'ai commencé à faire le coaching, là, justement, en entraînement personnel. Puis, c'était récurrent là, qu'il ne prenait pas soin d'elle. Il était tout le temps en train de dire oui à tout le monde. Il était trop gentil. Il n'y avait pas de barrière. Il n'y avait pas de structure dans leur vie. Donc, on parle de structure, on parle de financière, là, mais c'est aucune structure financière non plus.
Toutes les sphères de leur vie.
Toutes les sphères de leur vie. Fait que là, j'étais comme, il y a vraiment une problématique par rapport à ça. Fait que je me suis en allée aussi dans le développement personnel. J'ai fait une formation PNL parce que je voulais avoir des outils pour pouvoir les aider en plus de la préparation mentale qui m'a vraiment beaucoup aidée aussi. Mais je voulais leur donner plus d'outils. Fait que je me suis dit, oui, l'entraînement, c'est bien, mais s'ils n'ont pas de structure dans leur vie, c'est impossible que ça tienne. C'est juste un accessoire. Là. Ça sert à rien que je travaille dans une direction. Il faut que j'aille dans toutes les directions. Fait que je me suis dit, j'ai lancé un programme qui s'appelait le Master Queen, qui était un programme qui couvrait la structure financière, la structure au niveau de ses idées, son organisation dans sa tête, de l'entraînement, mais aussi de la confiance en soi, puis de développer des relations aussi, puis gérer son stress, son anxiété. Fait que je voulais vraiment donner les outils pour que les femmes puissent avoir les outils dans tous les aspects de leur vie. Fait que c'est comme ça qu'est commencé Master Queen, vraiment au niveau de développement personnel, confiance en soi, pour leur donner des bases solides. Et puis, c'est ça, c'est comme ça que j'ai décidé là, de bâtir ça. C'est vraiment selon qu'est-ce que moi, j'entendais à tous les jours dans mes séances de consultation avec les femmes en entraînement.
Super. Puis quand est-ce que tu as pris, t'as fait le grand saut, c'est-à-dire que t'as arrêté de travailler comme serveuse. Puis tu t'es dit, je vais générer assez de revenus grâce à mes multiples projets entrepreneuriaux.
Geneviève, je n'ai pas eu le choix.
Ah!
La vie m'a
La
arrêtée.
Vie est parfaite!
La vie m'a dit, wow fille! La vie m'a dit, toi, là, tu vas tomber en mononucléose, OK? Pendant un mois, tu ne pourras rien faire. Tu vas être clouée au lit, puis là, tu as assez travaillé, OK? Tu travaillais beaucoup trop. J'étais serveuse le soir, même la nuit. Je finissais à 3 heures, 2-3 heures. Je me réveillais le matin vers 10 heures et j'avais ma business, à ma communauté que je bâtissais, donc enregistrement de podcast, création de contenu, mes rendez-vous avec mes clientes au gym jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Je prenais un lunch, un dîner en même temps qu'un souper, puis je commençais à travailler au bar. J'arrêtais pas. Fait que là, la vie m'a juste fait, toi là, reste au lit pendant un mois, puis apprends tes erreurs. Mais overall, je suis vraiment contente que ça me soit arrivé parce que ça m'a fait prendre conscience que c'était pas là, que c'est pas ça que je voulais faire, puis c'était pas la bonne direction, puis c'était clairement pas la façon la plus efficace d'atteindre mes objectifs. Fait que j'ai décidé de faire le grand saut. En mon retour de mononucléose, j'ai réessayé au bar, j'ai réessayé quelques jours, puis mon corps me disait, crise d'anxiété par-dessus crise d'anxiété, arrête de faire ça. Il y a eu un soir que j'étais au restaurant, j'ai travaillé 2 soirs à mon retour de mononucléose. Et un soir, j'étais au restaurant, je me suis mis à faire une crise d'anxiété et puis il a fallu que j'aille aux toilettes, les jambes en haut, la tête en bas parce que je ne pouvais plus respirer. Là, j'ai fait, je pense que c'est un signe ça. Je pense
que c'était proche du choc vagal tellement que tu faisais une crise d'anxiété.
Ouais. Oh, fait que, oh non, c'était. Je pense que c'est un gros signe, ça, qu'il faudrait que j'arrête de faire ça.
Mon corps me parle. Je vais l'écouter. Oh, wow! Puis ça s'est passé quand, à peu près?
En octobre, il y a 2 ans.
Super. Ça fait que ça fait vraiment 2 ans que tu es à temps plein.
Oui,
exact. Wow! Puis en ce moment, est-ce que tu te sens encore anxieuse financièrement parfois ou ça va bien?
Je dirais que moi, je suis pas quelqu'un qui est pas anxieuse dans la vie. Là. J'ai un trouble d'anxiété généralisée qui est diagnostiqué depuis que j'ai 14 ans. Fait que c'est dur de dire j'ai jamais d'anxiété, j'ai pas de problème. Puis je suis complètement transparente avec les gens par rapport à ça. Je pense que j'apprends à le gérer. L'anxiété financière, non. Parce que je réussis super bien en ce moment, puis ça va vraiment bien, puis je suis capable de bien gérer mon argent, puis j'en ai plus que ce que j'ai besoin. Là, je suis vraiment bien par rapport à ça. Mais c'est quand même une inquiétude comme entrepreneur, puis de savoir qu'est-ce qui va se passer dans un an, qu'est-ce qui va se passer dans deux ans. Mon chemin a tellement changé dans les dernières années que j'ai aucune idée de je vais être où dans trois ans. C'est correct, mais faut juste apprendre à justement à se rappeler que c'est correct, que tu saches pas exactement tu vas être où dans deux, trois ans parce que ça peut changer, puis c'est correct. Fait que c'est de me rappeler ça. Mais je pense que moi, l'anxiété, comment je la gère, c'est que je vois ça comme un signe maintenant. C'est vraiment des signes que j'écoute, puis je me dis, il y a quelque chose à faire avec ça. Soit que j'ai besoin de plus de temps pour analyser mes chiffres. On parle d'anxiété financière, là. Si je ressens de l'anxiété par rapport à mes finances, bon, ben, je vais regarder un peu plus mes finances. Peut-être qu'il y a quelque chose que je peux faire par rapport à ça, un choix différent, me rassurer, mettre de l'argent de côté, ou peut-être me faire plaisir. Peut-être que je sens que je me fais pas assez plaisir, ou peut-être que je pourrais déléguer plus parce que je me sens surchargée par rapport à qu'est-ce que je fais comme argent. Fait que je pense que ça, moi, l'anxiété, je le vois comme un signe maintenant, qu'il y a quelque chose qu'il faut que je change, il y a quelque chose qu'il faut que j'adapte, il y a quelque chose qu'il faut que je fasse pour me sentir mieux. Fait que je vois ça plus comme un avantage, mais oui, je fais encore de l'anxiété, puis je pense que je vais en faire toute ma vie, puis c'est correct. Puis je pense que c'est juste l'adaptation qu'il faut que je fasse, là.
Oui. Ben, je te dirais que ma psy m'a dit que l'anxiété, ça restait pas mal toute la vie.
Ouais.
On a juste des meilleurs outils,
ouais,
et on voit mieux les drapeaux quand ils se lèvent. Mais ça veut pas dire que tu peux pas faire une crise de panique demain matin. Il y a des choses qu'on contrôle pas. Ah, oh, c'est beau. Puis, en ce moment, au niveau du travail comme entrepreneur, là, tu n'as plus de coaching sportif et tu es à 100%.
Ouais.
Dans vraiment ce qui te passionne présentement.
Oui, d'aider les femmes dans une sphère un peu plus entrepreneuriale. Donc ça, c'est vraiment le fun parce que c'est des nouveaux challenges aussi. J'apprends tous les jours puis ça me nourrit vraiment, vraiment beaucoup. Mais oui, je fais ça à 100% depuis le mois de janvier officiellement. Donc, janvier, février, là, ça fait 6 mois que je fais que ça, dans le fond, que la business de coaching en ligne et de consultation là, pour les entrepreneurs. Fait qu'on va espérer que ça continue. Puis, j'ai hâte de voir l'évolution de ça aussi. Je ne sais pas la direction que ça va prendre. J'ai des petites idées, j'ai une bonne vision de où est-ce que je vais amener ça, mais c'est le temps qui va nous le dire.
Oui, puis tu vas te laisser surprendre aussi.
Totalement.
C'est ça qui est beau. Ah, oh, puis j'aime beaucoup ma dernière question, c'est,
oui,
en ce moment, est-ce que tu as de la douceur financière dans ta vie? Comment tu te sens financièrement, présentement?
En ce moment, je dirais que je me suis jamais aussi bien sentie financièrement. J'ai eu de très belles vacances que j'étais extrêmement fière et contente de pouvoir me permettre. Pas juste financièrement au niveau de payer les vacances, mais de ne pas avoir de stress de ne pas travailler pendant 2 semaines, puis de prendre ça relax, puis de vraiment prendre ça relax, en train de me dire que, tu sais, de vraiment avoir la tranquillité d'esprit de prendre les vacances, puis de pouvoir me permettre des choses qui me font vraiment plaisir, du temps de qualité avec ceux que j'aime, du temps de qualité seule, à réfléchir, à lire, à pas me soucier de quoi que ce soit. Donc, je pense que je suis arrivée à un point dans ma vie où est-ce que aussi je sais bien prioriser ce qui est important pour moi, puis je me connais super bien. Puis, je sais qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais me sentir bien financièrement. Je sais que j'ai besoin d'argent de côté pour me sentir bien. Moi, c'est vraiment un must. Je suis pas capable de vivre un mois à fois. Je sais aussi que personnellement, dans ma douceur financière, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est de pouvoir me permettre les choses qui me tiennent vraiment à cœur, sans avoir à y penser, sans que ça soit quelque chose que j'ai à me poser une question. Ce qui me fait du bien financièrement aussi, c'est d'être capable de faire ce que je suis bonne et de faire ce qui me fait plaisir, puis de déléguer le reste. Ça, si je peux pas le faire, je me sens pas bien là-dedans. Fait que, une fois que tu sais ça, ben tu prends les montants, puis tu joues avec, puis tu fais en sorte que ça marche. Puis quand ça marche, ben là, je vis de la douceur financière, c'est sûr et certain.
Oui, puis je vais ajouter quelque chose que j'adore. Mm-hmm. C'est une des seules femmes entrepreneurs au Québec qui parle ouvertement d'argent dans tes stories. Mais c'est vrai, là. Tu sais, on n'est pas beaucoup, là, qui parlent d'argent et qui en parlent souvent de comment tu as fait pour automatiser ou aller déléguer d'une manière très, très intelligente financièrement, parce que c'est vraiment c'est pas de l'intelligence émotive, c'est vraiment de l'intelligence financière que tu es allée te chercher. Puis est-ce que tu trouves que ça a vraiment amené quelque chose de magnifique dans ta business?
Ah, c'est incroyable. Si tu savais, Geneviève, là, genre, c'est ça qui a fait en sorte que je suis capable de dire que j'ai du succès dans mon... Alors, le succès que j'ai dans mon entreprise est relié à mes choix financiers, vraiment. Parce que j'ai été capable de cibler qu'est-ce que je suis pas bonne, qu'est-ce qu'il faut pas que je fasse, que c'est pas une bonne idée parce que je vais être brûlée, je vais être stressée, puis ça me tente pas de le faire. Puis qu'est-ce que moi, il faut que je me concentre, puis qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais me réveiller le matin, puis je vais avoir mon calendrier devant moi, puis je vais faire « let's go », je vais tout donner, parce que je sais que les autres choses que j'ai déléguées sont « taken care of ». Il y a des choses qui sont prises en charge. C'est ce qui accélère la croissance, en fait, parce que l'argent est investi, c'est de l'énergie. Fait que plus que tu donnes l'énergie à quelque chose, puis que tu la distribues bien, en fait, puis le mieux que ça va, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai dit tout ce qui est au niveau du time management, calendrier, je suis vraiment poche avec ça. Je suis pas une fille qui a à l'intérieur d'elle un chronomètre. Je suis une artiste, je suis créative. Fait que si tu me donnes des heures, des dates, puis qu'il faut que je gère mon calendrier, il faut que je gère tout ça, ça me donne mal au cœur. Fait que je me suis dit, tout ce qui fait pas de sens pour moi, que je me sens obligée de faire parce que je suis entrepreneur, ben j'ai juste cassé ces tabous-là, puis je me suis dit non. Combien ça me coûterait par mois de ne pas le faire? Puis combien je pourrais sauver d'énergie pour la mettre dans quelque chose que moi, je suis vraiment excellente, c'est-à-dire vendre, coacher, puis créer du contenu. Fait que dans le fond, j'ai juste dit combien ça me coûterait? Parfait, bien, je vais le faire. Je vais faire cet argent-là, puis je vais payer quelqu'un pour faire ce que j'aime pas. Puis c'est juste, oui, comme tu dis, l'intelligence financière, c'est d'être capable de cibler à quel moment tu donnes telle tâche. Puis ça, c'est quand même l'expérience aussi qui rentre en ligne de jeu, puis je dirais te connaître. Parce que si tu te connais, tu sais c'est quoi tes faiblesses, tu sais c'est quoi tes lacunes, puis tu es capable d'aller chercher quelqu'un qui va pallier pour ça aussi, puis qui va bien le faire.
Oui. Oh, merci de l'avoir dit! Merci vraiment! Puis, pour terminer, avant qu'on se laisse, où est-ce que les gens peuvent te suivre sur les réseaux sociaux? Je vais tout laisser les liens dans les notes du podcast.
Ben, Instagram, c'est là que je suis le plus active, donc amélie.riendo. Puis aussi, j'ai une chaîne de podcast, moi aussi, de mon côté. Donc, je sais que les femmes aiment bien ça, là, écouter mes podcasts. On parle entrepreneuriat, de confiance en soi, mais tous les trucs aussi que j'ai développés justement avec les années pour gérer son stress, mais aussi optimiser ses décisions financières, ses décisions personnelles. Fait que c'est « All things business and personal development ». Fait que c'est ça. Puis, en fait, vous pouvez retrouver toutes les informations aussi sur ce que je fais et groupe Facebook et médias sociaux sur mon site web www.ameliriendo.com.
Super! Puis, je sais que tu es en lancement.
Oui.
Peux-tu en parler un petit peu? Parce que l'épisode sort dans une semaine, le
oui,
vendredi
exact.
Prochain.
OK. Oui. Fait qu'en fond, le lancement est officiellement commencé.
C'est ça que je veux dire.
Le lancement est commencé. Dans le fond, c'est MQ3, donc vous avez entendu dans l'épisode le Master Queen, qui est devenu MQ, MQ1, MQ2, MQ3. Donc, je suis rendue à la troisième édition, qui est un niveau supérieur pour les entrepreneurs qui désirent utiliser les systèmes que j'ai mis en place dans mon entreprise et les systèmes de délégation, mais d'automation également, pour pouvoir se permettre de se libérer des tâches justement administratives, d'avoir une équipe qui les supporte pour pouvoir se concentrer sur vraiment quelles sont les meilleures. Tu sais, j'ai parlé de vendre, créer et aussi de coacher. Mais pour chacune d'entre nous, nos forces et nos faiblesses sont différentes, donc ça peut être différent pour quelqu'un d'autre, mais le modèle que j'utilise permet dans le fond de répondre à tes besoins personnellement. C'est un mastermind de 6 mois, donc c'est une formule mastermind, c'est-à-dire qu'on va être avec 10 femmes entrepreneurs plus une séance de coaching en one-on-one par mois. Et puis, ça va être vraiment fait sous forme là, de mastermind, un groupe de 10 femmes entrepreneurs qui sont rendues à l'étape de vouloir faire 6 chiffres et plus par année et aussi de pouvoir avoir une équipe qui les supporte pour avoir plus de liberté dans qu'est-ce qu'elles font puis de se consacrer à ce qu'elles sont les meilleures.
Super! Merci de faire ça de un pour les entrepreneurs. Merci beaucoup pour cette magnifique discussion. Puis,
Merci pour ton invitation, ça me touche beaucoup, puis j'étais vraiment contente de venir faire un tour ici. Fait que j'espère que ça va pouvoir plaire à ton audience, puis merci de l'invitation.
Ça fait plaisir, bye bye!
Bye tout le monde!